autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation, pour mettre en question les nombreux mythes autour de l'Égypte ancienne, en commençant par nous demander pourquoi l'Égypte pharaonique suscite depuis toujours, et de toutes parts, au nord comme au sud, une telle fascination. Comment se fait-il qu'autant de groupes humains, au but parfois opposé, s'en revendiquent ? Nos ancêtres, les pharaons, 5 siècles d'illusions sur l'Égypte ancienne, c'est le titre de l'ouvrage salutaire de notre invité. L'archéologue, anthropologue et mythologue Jean-Loïc Lequellec, spécialiste de l'art rupestre du continent, formidable défricheur et révélateur de l'histoire et de la préhistoire de l'Afrique, une histoire bien plus longue et bien plus complexe que certains discours ne voulaient nous faire croire. Mais justement, après des siècles de déni, comment ne pas passer d'un extrême à l'autre ? Comment démêler le vrai, les anciens royaumes des pharaons noirs, de Méroé et Napata, du faux ? Hiéroglyphes dans le Grand Canyon ou influence égyptienne des pyramides précolombiennes. Pourquoi ces fantasmes, nourris aussi bien par des suprémacistes blancs, racistes, que par des abolitionnistes et des afrocentristes, nous en disent au fond bien plus long sur nous-mêmes que sur nos ancêtres, les pharaons. Autour de la question, pourquoi tant de mythes sur l'Égypte et les pharaons ? Bienvenue.
L'Égypte, qui est considérée notre la mère de toutes les civilisations, je dirais. Les Occidentaux ont revendiqué l'Égypte pour leur grand ancêtre et les Africains ont exactement fait la même chose de leur côté. L'Égypte est une des mères du monde, si on peut dire, mais elle a influencé, elle est en Afrique, et donc progressivement, avec le déclin de l'Égypte proprement dite, juste dans les premiers siècles avant notre ère et les débuts de notre ère, vous avez des cultures qui se sont développées précisément le long du Nil, au-delà de l'Égypte. On a bien montré justement l'importance de cette transition historique entre l'Égypte pharaonique et puis les développements ultérieurs le long de l'océan Indien et dans toutes les régions.
C'est avec l'historienne spécialiste de l'Afrique, Catherine Kokri-Vidrovitch, que nous ouvrons la réflexion sur nos ancêtres, les pharaons, pour reprendre le titre de votre livre. Jean-Loïc Lequellec, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en duplex avec nous, depuis les studios de France Bleu à La Rochelle, pour nous interroger donc sur 5 siècles d'illusions sur l'Égypte ancienne. Ça, c'est le sous-titre de votre essai qui a vraiment le mérite de mettre les pieds dans le plat, de nous rafraîchir la mémoire et de remettre les pendules à l'heure, si j'ose dire, autour de l'égyptomanie. Pourquoi l'Égypte fascine, nous fascine depuis si longtemps, depuis l'Antiquité en fait, hein, comme vous le dites vous-même, Jean-Loïc, en introduction ?
Oui, on peut dire que la fascination pour l'Égypte antique est elle-même antique. Déjà, dans les textes de l'Antiquité, on a des témoignages d'auteurs qui sont absolument fascinés par l'Égypte, Hérodote, bon, et d'autres. Et disons, depuis qu'on a des traces écrites, on a des témoignages de cette égyptomanie, c'est un grand mot et c'est prématuré à cette époque-là, mais disons de cette fascination pour l'Égypte ancienne. Et pour la fascination qui passe notamment par l'admiration pour la monumentalité.
C'est ça, la monumentalité, les pyramides. Vous le dites aussi d'ailleurs, les premiers pillards d'Égypte ancienne, ce furent les Romains.
Oui, alors l'admiration est parfois doublée de l'envie et de l'envie de posséder. Et c'est quand même quelque chose qui est assez récurrent en Afrique. Il y a beaucoup de gens qui sont venus et qui ont pris possession par la force, notamment de ce qu'ils avaient envie de récupérer. Alors notamment, parmi les premiers à voler, parce qu'il faut employer le terme, des obélisques, il y a les Romains. Il y a les Romains et ensuite beaucoup d'autres, évidemment, ont poursuivi cette tradition.
C'est ça, hein, on peut parler de la campagne d'Égypte de Napoléon. À partir de là, voilà. Même si avant l'égyptophilie ou la fascination pour l'Égypte existait vraiment, vous citez déjà en 1797, la première apparition du terme égyptomanie, mais ça a vraiment démarré, au fond, après la campagne d'Égypte de Napoléon et puis le déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion en 1820, la découverte de la tombe de Toutankhamon en 1922 ont vraiment relancé l'intérêt. Et là, on peut parler d'une vraie égyptomania, Jean-Loïc.
Oui, parce que ça devient collectif à ce moment-là. Au départ, la première attestation du terme, c'est dans une correspondance privée, et c'est quelqu'un qui dit simplement que lui, il a une attirance vers l'Égypte, une attirance, une forte attirance vers l'Égypte, et il fabrique le mot égyptomanie. On peut aussi parler d'égyptophilie. Mm-hmm. Bon, mais c'est à ce moment-là, c'est un penchant personnel, disons. C'est un intérêt personnel. À partir du moment, notamment après la campagne d'Égypte, à partir du moment où il y a des publications qui se multiplie avec notamment des illustrations et puis beaucoup de récits de voyage qui vont suivre, eux aussi illustrés, et bien ça enclenche tout un processus de rêverie et ce qu'on a vraiment appelé l'égyptomanie comme mouvement, comme dans l'histoire des idées qui s'est traduit notamment dans l'architecture par exemple. Il y a eu des influences égyptiennes dans l'architecture du 19e siècle et après. C'est-à-dire on a utilisé des systèmes d'ornementation, des types de colonnes, des procédés architecturaux pour fabriquer des monuments contemporains. Et tout ça témoigne de ce qu'on peut vraiment appeler une égyptomanie.
Une égyptomanie qui est, au fond, vous le dites vous-même, un rêve quoi, de grandeur passée, avec aussi sous-jacent, et là comme ce sont à l'époque les Blancs, les Européens qui font l'histoire, avec sous-jacent l'idée d'une décadence, et aussi que dans la grandeur passée, cette Égypte qui a tout, qui est des précurseurs de tout, c'était forcément des Blancs. C'était quand même ça qu'il y avait derrière.
Oui, alors au départ, il y a par exemple un architecte qui s'appelait de Quincey qui a écrit que, au milieu du 19e siècle, qui a écrit que la plus grande civilisation du point de vue de l'architecture, c'est ça qui l'intéressait lui en tant qu'architecte, c'était les Égyptiens. Voilà. Et que c'est un sommet absolument indépassable et que les Grecs ont copié, puis les Romains ont copié les Grecs et tout le monde s'est copié les uns les autres, mais tout n'est que décadence pour lui après la grandeur première de l'Égypte ancienne. Et cette idée-là d'une grandeur primordiale insurpassée et qui cède place à une décadence continue jusqu'à nos jours, c'est une idée qui toujours perdure jusqu'à aujourd'hui.
C'est ça, et finalement de tous les côtés, parce qu'ensuite, quand les Africains ou les Afro-Américains vont se mettre à rêver aussi de grandeur passée et vont eux-mêmes écrire l'histoire en rêvant de cette grandeur passée, ils vont aussi remonter à l'Égypte ancienne et notamment aux pharaons noirs, on va y revenir, qui ensuite ont développé en Nubie, dans l'actuel Soudan, les royaumes de Méroé et de Napata. À ce sujet, Jean-Loïc Lequellec, je propose d'écouter une grande voix, celle de l'historien et penseur de l'Afrique, Cheikhanta Diop.
Dans les temps modernes, en tout cas au 19e siècle, au début du 19e siècle, l'Occident découvre que c'est l'Égypte et une Égypte noire qui a apporté tous les éléments de la civilisation à l'Europe. Et cette vérité, il n'était pas possible de l'exprimer. Voilà la vérité, voilà la réalité.
La voix de Cheikhanta Diop, il faut dire tout de même qu'au milieu du XXe siècle, il était très courageux de parler de pharaons noirs et d'une Égypte noire, même si Cheikhanta Diop, on va y venir, et vous y venez dans votre ouvrage, a aussi été trop loin, a lui aussi rêvé ou fantasmé l'Égypte noire.
Alors, au moment où Cheikhanta Diop a fait beaucoup parler de lui en publiant en 1954 un livre qui est toujours disponible aujourd'hui, qui est constamment réédité, qui s'appelle Nation nègre et culture, qui s'intitule Nation nègre et culture. Quand il a publié ce livre, les idées qui sont dans ce livre étaient déjà répandues depuis largement un siècle, un siècle et demi, aux États-Unis et depuis très longtemps en France. Alors, c'est très curieux parce qu'il n'y a pas eu là une histoire cumulatif des idées. Sans doute que Cheikhanta Diop a fait beaucoup de bruit, effectivement, et a, disons, un peu secoué certaines traditions du côté francophone. Mais il en est très différent. C'est très différent de l'autre côté de l'Atlantique. Et ça se comprend très bien parce que les pasteurs abolitionnistes noirs nord-américains, eux, luttaient contre l'esclavage, bien entendu, ils luttaient avec les outils qui étaient les leurs. C'était des pasteurs et ils avaient eu la chance d'avoir accès à l'écriture, à la lecture, à l'époque où il était interdit quand même aux Noirs d'apprendre à lire et à écrire, il faut s'en souvenir. Et eux utilisaient leur outil qui était la Bible. Et dans la Bible, il y a un mythe qui est celui du déluge, que tout le monde connaît, l'histoire du déluge. Un survivant, Noé, il a trois fils. Il y en a un qui s'appelle Sem, qui est supposé être l'ancêtre des Sémites, un qui s'appelle Ham, qui est supposé être l'ancêtre des Hamites, et un qui s'appelle Cham, qui est l'ancêtre des Camites. Il a un fils qui s'appelle Cush, et Cush, bah, c'est ce qui a donné le nom Cushite. Les Cushites, ce sont les actuels Nubiens. Mmh. Et à cette époque aussi, Égypte et Éthiopie étaient des termes quasiment synonymes. Éthiope, ce qui a donné Éthiopie en français, c'est un mot grec qui veut dire les faces brûlées, c'est-à-dire les visages noirs, les noirs. Voilà, c'était une façon grecque d'appeler les noirs. Et donc, à cette époque, ils utilisent ce mythe pour dire, mais en fait, la grande culture africaine qui a laissé des traces parfaitement visibles par tout le monde et qui provoque l'admiration chez tout le monde, c'est l'Égypte ancienne. C'était des Cushites, c'était les descendants de Cush, le petit-fils de Noé. Et c'était des noirs. Et de plus, l'Égypte a été l'institutrice de l'humanité. C'est elle qui a fondé la première civilisation et toutes les autres civilisations découlent de celle-ci. Et donc ça, c'est un mythe. Il y a aucune nuance de mépris hein, quand je dis mythe.
Absolument.
Un mythe, c'est simplement un récit fondateur qui explique le monde présent en faisant appel à des événements du passé antiquissime. Hein, voilà.
Oui, je rappelle quand vous dites il y a aucun dédain là-dedans, que vous êtes mythologue, vous travaillez au fond et vous faites des liens entre la mythologie, les découvertes archéologiques. C'est-à-dire que au fond, vous dites dans cette histoire, il y a beaucoup de mythes, mais qui ont chacun des sources différentes, et on se rend compte que dans tous ces mythes, paradoxalement, vous parlez des abolitionnistes afro-américains et qui se servent de l'Ancien Testament pour parler d'une Égypte noire. On a de l'autre côté en Occident d'autres penseurs bien plus blancs et qui eux revendiquent une Égypte blanche. Au fond, Égypte blanche ou Égypte noire, on est dans des mythes et on est dans des illusions, sans aucun dédain là-dessus. Hein. Mais on est dans des mythes et des illusions dans lesquelles il y a des parts de vérité et des parts de faux, c'est ça ?
Alors, c'est de la mythologie contemporaine au sens, voilà, de notre époque, depuis le 19e, 20e, 21e siècle, voilà, grosso modo, hein, c'est pas l'Antiquité, hein, c'est vraiment notre époque.
Oui.
Et c'est de la mythologie dans la mesure où c'est des discours. Alors, c'est des discours qui utilisent des éléments de l'archéologie, mais c'est pas des discours de type égyptologique, de type archéologique, c'est pas des discours qui cherchent à formuler une démonstration, à reconstruire le passé, c'est des discours qui affirment, qui affirment pour donner du sens au monde présent et qui sont tenus, ces discours, très généralement par des militants. Et donc, c'est très important pour eux. Et pour eux, simplement des discours de vérité. C'est-à-dire, ceux qui ne sont pas d'accord, eux peuvent considérer que ce n'est pas des discours de vérité. Et là où ça devient intéressant, c'est que s'agissant de l'Égypte antique, on a donc ce grand mythe d'une Égypte qui serait la première civilisation du monde, qui
ça
apparaît...
c'est un mythe, oui.
Presque miraculeusement. Alors, bien sûr que non, il y a toute une longue histoire et de très longues histoires même en Afrique qui ont précédé l'émergence de l'Égypte pharaonique.
Oui, oui.
Il y a une très longue proto-histoire. Bon, et c'est parfaitement bien documenté. Mais le mythe veut que l'Égypte d'un seul coup surgisse, voilà, et sous une forme quasiment parfaite, avec une très grande culture, une très haute technicité et une très haute spiritualité. Et ensuite, elle, cette magnifique civilisation, proprement africaine, diffuse, et elle diffuse dans toute l'Afrique, où elle influence toutes les autres civilisations, où elle participe même à leur création, elle les provoque. Et puis, ensuite, vous avez un élargissement de ce mythe au monde entier, où les Égyptiens antiques se seraient répandus en naviguant dans le monde entier, où ils auraient partout fondé des grandes civilisations. Ensuite, leur propre civilisation, eh bien, aurait progressivement disparu, et puis les autres civilisations créées sous leur égide, peu à peu, n'auraient été que décadence jusqu'à l'ultime décadence de notre époque contemporaine. Alors, ce mythe, il est raconté comme ça, mais il est raconté en deux variantes.
Voilà.
Puisqu'il y a une variante qui vous dit, alors, d'accord, avec tout ce qui vient d'être dit, mais il faut pas oublier que les Égyptiens antiques étaient noirs. Mmh. Et vous avez une autre variante, racontée évidemment par d'autres personnes et d'autres militants, je dirais, qui disent, d'accord, mais c'était des Blancs.
Ouais.
Alors évidemment, en fonction du choix qu'on peut faire entre noir et blanc, alors je mets une petite parenthèse, comme s'il y avait que des noirs et des blancs,
mais
et comme s'il fallait
ça.
Choisir entre les deux. Bon.
Mais c'est
en tout
bien
cas,
sûr.
Voilà, c'est ce qui est fait. Les gens choisissent tiennent pour une ou l'autre variante de ce mythe et en fonction de ça, utilisent le mythe à des fins identitaires.
Voilà, or en fait, d'ailleurs, les égyptologues ne sont jamais tellement penchés sur ces mythes parce que eux, ils voyaient bien une vraie diversité de populations. Les choses ne sont pas noires ou blanches, il n'y a pas une création, il n'y a pas eu d'un seul coup ex nihilo, la civilisation qui a inventé toutes les autres. En fait, c'est un peu pour ça votre démarche. On y viendra, il y a d'autres raisons aussi qui vous ont fait écrire ce livre. Mais c'est parce que là, on est dans des mythes, dans des histoires qui doivent servir à quelque chose en fait.
C'est ça, c'est des propos militants. Alors, ils sont pas militants pour tout le monde parce qu'il y a des personnes qui racontent ces histoires-là, disons parce que c'est des gens qui ont trouvé ça étonnant, à la limite de l'incroyable, mais quand même on y croit quand même un peu ou beaucoup.
Oui, oui. Voilà. Des grands rêveurs au fond. Oui.
Voilà, sans aucune arrière-pensée aussi parce qu'il y a quelque chose de fascinant et puis parce que nous autres les humains, on adore qu'on nous raconte des histoires. Bon, on adore nous-mêmes raconter
en
des
raconter,
histoires.
Hein, et bon. Sans raconter, c'est ça. Oui.
Voilà, c'est l'espèce fabulatrice, comme dit. Nancy Houston.
Absolument.
Bon, voilà. Et bon, on est tous comme ça. Mais il y a aussi des gens qui racontent ces histoires avec des arrière-pensées. Il y a des gens dont on sait qu'ils racontent ces histoires pour illustrer des thèses et pour faire avancer des thèses.
Et là, ça devient dangereux, sans parler des véritables escrocs. Autour de la question, pourquoi tant de mythes, donc apparemment contradictoires, hein, que vous venez d'éclairer pour nous, pourquoi tant d'illusions autour de nos ancêtres, les pharaons, vous nous direz, Jean-Loïc Lequellec, quel a été le déclencheur pour vous de cette salutaire mise au point sur 5 siècles d'illusions autour de l'Égypte ancienne, juste après avoir écouté votre choix musical, qui lui aussi porte la trace des pharaons. Vous avez choisi d'écouter Akhenaton, leader et chanteur du groupe de rap IAM. On vous propose Né sous la même étoile, l'album enregistré en live au pied de la pyramide de Gizeh et qui s'intitule Retour aux pyramides, tiens donc, sur RFI.
On va entendre tout le monde chanter.
La vie est belle, le destin sans écart. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le verre se lève, le voile. Multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis.
Sous la même étoile, non.
Pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né les poches vides? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? Pourquoi j'ai vu mon père en cycle partir travailler juste avant le sien en 3 pièces grillées? BMW, la monnaie est une belle femme qui n'épouse pas les pauvres. Sinon pourquoi suis-je là tout seul, marié sans dot? Pourquoi pour lui c'est crèche et vacances? Pour moi c'est stade de foot, sans cage, sans filet, sans même une ligne blanche. Pourquoi pour lui c'est l'équitation? Pour moi les bastons, pour lui la coque, pour moi les flics en faction. Je dois me débrouiller pour manger certains soirs. Et pourquoi lui se gave de saumon sur lit de caviar? Certains naissent dans les choux, d'autres dans la merde. Pourquoi ça pue autour de moi? Quoi? Pourquoi tu me cherches? Pourquoi chez lui c'est des Noëls ensoleillés? Pourquoi chez moi le rêve est évincé par une réalité glacée? Et lui a droit à des études poussées. Pourquoi j'ai pas assez d'argent pour acheter leurs livres et leurs cahiers? Pourquoi j'ai dû stopper les cours? Et pourquoi lui n'avait pas de frère à nourrir? Pourquoi j'ai dit les charges? Pourquoi quand moi je plonge, lui passe sa thèse? Pourquoi les cages d'acier, les cages dorées agissent à leur aise? Son astre brillait plus que le mien sous la grande toile. Pourquoi ne suis-je pas né sous la même étoile?
Ouais, la vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né. C'est ça qu'on veut.
Comme Issa, pourquoi je suis pas né la bonne étoile veillant sur moi? Couloir plein de toits, de cracha, cha-cha, de francs. Courbette des tapettes devant, supporter de grandir sans un franc, c'est trop décevant. Simplement en culotte courte, ne pas faire la belle mécanique plate avec des pots de yaourt, c'est pas grave. Je n'en veux à personne si mon heure sonne, je m'en irai comme je suis venu. Adolescent incandescent, géant à tour de bras sur le fruit défendu innocent. Témoin de petit papa, tu dans la rue, c'est une enfance. De la pourriture, ouais, je ne drague pas, mais virer des tartes petites avec des couettes. Pas de beurre devant mon père, ma soeur portait le voile. J'y revois à l'école les gosses qui la croisent au poil.
C'est rien, Léa.
Si on était moins scrupuleux, un peu de jeu du feu, on serait comme eux. J'ai pleuré pour avoir un job comme un crevard sans boire. Les je t'aime à mes parents seuls dans mon lit le soir. Chacun son poulet sans ambition, la vie c'est trop long. Écrire des poèmes, pisser violent dans un violon. Tu te fixes sur le wagon, c'est la locomotive que tu manques. C'est pas la couleur,
c'est le fond en banque.
J'exprime mon avis, même si tout le monde s'en fiche. Je serais pas comme ça si j'avais vu la vie riche.
La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis.
Non,
la vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis.
Né sous la même étoile, le groupe IAM faisait son retour aux pyramides dans cet album live. Enregistré au pied de la pyramide de Gizeh en 2008 par Akhenaton, bien sûr, mais aussi Khéops et Imhotep, les rappeurs d'IAM se sont presque tous choisis des noms qui renvoient à nos ancêtres, les pharaons, Jean-Loïc Lekelec.
Oui, c'est quasiment une tradition chez les rappeurs, hein, parce que quand on regarde un peu l'histoire de ce mouvement musical, on voit que depuis le début, nombre d'entre eux se sont choisis des pseudonymes qui sont ceux de pharaons ou de personnages célèbres de l'Égypte ancienne. Et quand on regarde les paroles, il y a énormément d'allusions au mythe dont on parlait tout à l'heure, au mythe d'une grande Égypte civilisatrice du monde. Voilà.
C'est ça, Égypte civilisatrice du monde. Alors je rappelle que vous êtes vous-même mythologue, anthropologue, archéologue Jean-Loïc Lekelec. Vous venez de publier aux éditions du Détour un ouvrage salutaire qui remue et qui dérange aussi, mais qui suscite en tout cas beaucoup de réactions de la part de nos auditeurs et auditrices sur les réseaux sociaux. Je rappelle son titre, Nos ancêtres, les pharaons, 5 siècles d'illusions sur l'Égypte ancienne. Et vous l'avez dit, les illusions, elles sont, comment dire, partagées, ou elles ont deux variantes. Il y a des suprémacistes blancs qui se font l'illusion de croire que voilà, l'Égypte a été la première, la mère de toutes les civilisations apparue comme ça et puis décadent jusqu'à aujourd'hui. Alors cette Égypte était-elle blanche, était-elle noire? Voici un délire qui vous a, comment dire, qui vous a sorti de vos gonds, cher Jean-Loïc Lekelec. Pourquoi avez-vous décidé d'écrire ce livre?
Alors, c'est la déclaration de Gims.
Eh ben voilà. Je vous propose de l'écouter. On va vous laisser réagir ensuite. On écoute Maître Gims sur RFI.
C'est le futur vraiment chez nous. À l'époque de l'Empire de Kouch, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent.
Voilà, c'est cette déclaration-là de Maître Gims. Voilà, les Égyptiens avaient l'électricité, qui vous a fait réagir, mais pas pour vous moquer de ça, pour nous dire attention, pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est ça, hein?
C'est ça. Immédiatement, quand il a fait cette déclaration, c'était une longue entrevue. Hein. C'est un tout petit morceau d'une longue entrevue qui parle de tas de choses. Et voilà, à un moment donné, il fait cette déclaration sur les pyramides et les gens n'ont retenu que ça. Et les réseaux sociaux, notamment, il y a eu une énorme un buzz énorme.
Dans tous les sens. Hein.
Et très généralement, tout le monde a ricané, disons, parfois avec beaucoup de mépris, en disant voilà, quel inculte vraiment. Il raconte n'importe quoi, mais qu'il est bête, etc. Voilà, donc vraiment très, 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 de façon assez agressive.
Ouais.
Et je me suis dit, bon, c'est sûr que ce que dit là Gims, c'est pas vraiment très bon du point de vue de l'archéologie et de l'égyptologie. Mais Gims n'est pas un égyptologue, c'est pas un archéologue, c'est pas un historien des idées, c'est pas un historien de l'Afrique non plus. C'est quelqu'un qui est un chanteur et puis qui déclare quelque chose comme ça, Et je me suis dit, en fait, c'est pas lui qui a là. Qui donne les conclusions d'une longue étude. Il a pris ça quelque part. Et je me suis dit, mais où est-ce qu'il a pris ça? Je me suis posé deux questions, en fait. Je me suis dit, où est-ce qu'il a pris ça? Et au fond, en disant ce truc sur chez nous, chez Wakanda, chez le futur, les Égyptiens, ils avaient des foutues les antennes, etc. Qu'est-ce qui nous dit réellement? Est-ce que ce serait pas quelque chose qui ressemblerait un peu aux contes, aux mythes et aux fables, où on vous raconte une histoire, mais en fait l'important c'est pas exactement l'histoire qu'on vous raconte, c'est la signification cachée de l'histoire.
Voilà. C'est ce qu'on vous dit
et
derrière.
Je me suis dit, voilà, qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Qu'est-ce qui nous dit réellement Maître Gims? Et là où il a peut-être même tout à fait raison de le dire, c'est que moi je me suis dit, c'est drôle, quand j'ai entendu dire, chez nous c'est le futur. Alors chez nous, évidemment, ça veut dire en Afrique, hein, c'est le futur. Je me suis dit, ah là, ça, c'est peut-être un indice, c'est peut-être une piste, parce que dire, chez nous, en Afrique, c'est le futur, c'est Wakanda, il dit ça d'une manière très imagée, c'est l'exacte symétrique du discours de Nicolas Sarkozy à Dakar en 2007, quand il disait que l'homme africain est trop enfoncé dans le passé.
C'est ça.
Il n'arrive pas à s'extraire du passé. C'est exactement l'inverse.
Et je c'est me une suis réaction. Dit, bon, c'est une réaction à ça.
Exactement. Alors, je dis pas, évidemment, on peut pas dire que Gims répond personnellement à Monsieur Sarkozy en personne. Bien sûr que non. Mais c'est, disons, qu'il se fait l'écho d'un discours qui répond à un autre discours. Et ces deux discours, en réalité, eh bien, les réactions qu'on a vues sur les réseaux montrent que ces deux discours sont toujours présents et sont toujours concurrents dans notre société.
C'est ça. Et comment, au fond, la question, c'est aussi, et c'est pour ça que vous avez écrit ce livre et qu'il est vraiment salutaire, c'est comment sortir de ces discours ou au moins être conscient que ce sont des discours. Et donc, il s'agit, quand on parle des pyramides et des Égyptiens qui savaient tout et qui sont le futur et qui avaient l'électricité, il s'agit de dire au fond, remettez-nous enfin dans l'histoire et à notre juste place. Il y a quand même ça qui est derrière.
Oui, il le dit, Gims d'ailleurs, il dit il faut connaître son histoire, grosso modo, c'est très important. Alors, il le dit à sa manière, mais là, il a parfaitement raison. Alors, ceci dit, c'est plus facile à dire qu'à faire,
parce qu'il
faut avoir accès aux sources, il faut avoir accès à la documentation, il est plus facile d'avoir accès à des fausses nouvelles qu'à une documentation solidement établie, et l'effet buzz sur les réseaux, évidemment, fait qu'on en aura plus d'écho si on parle de l'électricité en Égypte ancienne que si on parle de choses avérées mais un peu plus compliquées à expliquer.
C'est
mais
ça.
Aussi, je me suis dit, en écoutant cette histoire d'électricité en Égypte ancienne qui a beaucoup fait ricaner, c'est très curieux que ça fasse ricaner parce qu'en fait, ça vient pas du tout de Gims. C'est pas lui qui a inventé ça, c'est un très vieux discours. Par exemple, vous avez en 1877 le livre d'Elena Blavatsky, la fondatrice, la cofondatrice de la Société Théosophie, qui écrit ça textuellement dans un livre qui s'appelle Isis dévoilée. Et vous avez Edgar Poe. Edgar Poe, dans une nouvelle qui a été traduite par Baudelaire, une nouvelle qui a été écrite en 1845, à l'époque où on faisait des tas d'expérimentations autour de l'électricité, raconte que quelqu'un ressuscite une momie avec en utilisant l'électricité. Et une fois ressuscité, la momie discute avec les savants qui sont autour, là. La nouvelle s'appelle Petite discussion avec une momie. Bon. Et la momie prend les savants de très haut en disant « Oui, alors je vois que vous essayez un petit peu d'utiliser l'électricité là, mais c'est un peu primitif, votre système, nous on avait bien mieux à notre époque. » Voilà. Et donc cette idée est ancienne.
Donc c'est un très vieux discours et qui servait à l'époque, alors soit une certaine spiritualité, soit certains suprémacistes blancs, c'est-à-dire qu'au fond, ça peut être mis à toutes les sauces, au fond, cette relecture ou cette manière de dire nos ancêtres, les pharaons et l'Égypte ancienne est à la source de tout, donc à la source de nous, et de nous les meilleurs, évidemment.
Voilà. Et alors, par exemple, le même récit, vous avez raison, hein, le même mythe peut être utilisé pour défendre, au fond, des idées ou des visions du monde complètement différentes, voire strictement opposées. Poe, par exemple, racontait cette histoire, alors, avec, un peu d'ironie, avec de l'humour, mais le message qu'il voulait passer, c'était un message, visant à parodier, le sentiment de supériorité, fréquent et très répandu en Amérique du Nord à son époque. Voilà, avec la prétendue supériorité générale qui naîtrait de la simple supériorité technologique. C'est ça qu'il voulait moquer. Voilà, en disant, les Égyptiens anciens, en fait, étaient bien supérieurs à nous du point de vue spirituel. Donc c'est ça, alors qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, il utilisait ce mythe de l'électricité du temps de l'Égypte antique pour défendre cette idée. Et vous avez maintenant des gens qui utilisent ce genre d'argument
des arguments aussi de type archéologique, on pourra peut-être y revenir, enfin, des tas d'arguments pour construire le même type de mythe. Alors, soit pour défendre, disons, le fait de retrouver une fierté africaine, ce qui est tout à fait entendable, bien entendu, après les colonisations, après tous les scandales et les abus qu'il y a eu, dont l'Occident est très grandement la cause. Bon, on entend très bien ça et on le comprend parfaitement. Disons que c'est même justifié. Et en face, vous avez des gens qui utilisent les mêmes mythes pour défendre une vision du monde et pour promouvoir une autre façon de voir qui, elle, n'est pas du tout justifiée à mes yeux, qui est le suprémacisme blanc, qui est de dire, mais nous autres blancs, nous sommes effectivement, réellement supérieurs. La preuve, déjà, la première civilisation de tous les temps, celle qui a servi de modèle à toutes les autres, était une civilisation blanche. On voit bien comment le même récit, il faut vraiment se méfier de l'adhésion comme ça à une belle histoire ou de l'adhésion à un beau récit, parce que si on perd son sens critique parce qu'on est emporté par le récit, on risque d'être emmené vers des domaines dans lesquels on aurait franchement hésité ou même refusé à aller si on avait su où on nous conduisait dès le départ.
C'est ça. Attention à ne pas trop adhérer à ces récits et évidemment se pencher sur la vraie histoire autour de la question de ces pharaons et notamment de ces pharaons noirs est évidemment beaucoup plus complexe. Alors, on l'a dit, ils ont été longtemps ignorés. Les royaumes de Napata et de Méroé ont longtemps été passés sous silence. Je propose d'écouter l'égyptologue, archéologue et linguiste Claude Rigny à ce sujet. Il est le spécialiste de la langue méroïtique, la plus ancienne langue d'Afrique noire, dont il a mis au jour les inscriptions en fouillant sur la rive ouest du Nil, dans l'actuel Soudan.
Il y a plusieurs sites pyramidaux royaux au Soudan. On estime que la première pyramide est construite probablement par Kashta, qui n'était pas encore maître de l'Égypte, mais son successeur Pianki allait conquérir l'Égypte et établir cette 25e dynastie qui va régner en Égypte pendant 70 ans. Et c'est donc le rapport avec l'Égypte, évidemment, qui crée cette envie d'avoir des pyramides, alors qu'en Égypte, on ne fait plus de pyramides depuis 1000 ans, pratiquement. Donc les premières pyramides se trouvent dans le cimetière d'El Kourou. Ensuite, un deuxième cimetière est bâti à partir du règne du pharaon Taharqa sur l'autre rive à Nouri. Et on a à peu près une trentaine de pyramides à cet endroit-là, au moins des pyramides royales. Et les reines, par contre, ont leur petite pyramide à part. Et puis ensuite, c'est curieux, ça commence à se mélanger. Il y a une toute petite dynastie qui dure 5 règnes à peu près, dont les pyramides sont au pied de la grande montagne sainte du Djebel Barkal qui domine Napata. Et ensuite, effectivement, on se déplace à Méroé où on a à peu près 40 pyramides de rois, 3 pyramides de reines et 2 pyramides princières.
Et est-ce qu'on peut parler là, quand on parle de pharaons noirs et de reines noires, on peut parler de pharaons noirs, ce qui a quand même été longtemps impossible même à entendre pour les égyptologues du 19e, 20e siècle.
Bon, au départ, on parlait de dynastie éthiopienne. Et c'était tout à fait normal, puisque ce terme d'Éthiopie désignait le Soudan chez les Grecs et chez les Latins. Ensuite, on a parlé de dynastie couchite, c'est-à-dire venant de Couche, et c'est vraiment le terme. Moi, j'utilise assez souvent le terme de pharaon noir, mais c'est un terme, je dirais, médiatique.
Vous parleriez de pharaon noir, Jean-Loïc Lequeyec, en expliquant bien à nos auditeurs et à nos auditrices que c'est une période plus ancienne. Plus proche de nous, je veux dire, ce sont les successeurs plus récentes, plus récentes après les pharaons égyptiens. Vous parleriez, vous, de pharaons noirs pour ces royaumes extraordinaires de Napata et de Méroé?
Disons que l'expression pharaon noir, elle est quasiment passée dans l'usage, et dans l'usage médiatique, comme dit très bien Claude Rilly. Voilà. Et donc, c'est une façon rapide de se faire comprendre. Ensuite, je suis vraiment pas persuadé que la couleur de peau, ce soit quelque chose d'extrêmement important.
C'est ça. Voilà. Merci de le dire. Voilà, peut-être qu'il faut qu'on sorte de là tout simplement. J'ai envie de vous soumettre tout de suite autour de la question pourquoi tant de fantasmes, de mythes, d'illusions, de binaires, de noir et de blanc justement sur l'Égypte ancienne et nos ancêtres les pharaons. J'ai envie de vous proposer la question soulevée par notre historien à nous, c'est l'écrivain Elgas, que l'on peut désormais retrouver le dimanche sur RFI dans Afrique, mémoire d'un continent. Voici la question qu'Elgas souhaitait vous poser, Jean-Loïc Lequelec.
Cher Jean-Loïc Lequelec, j'ai lu une partie de votre ouvrage qui est très éclairant, je dois le dire, Et ma question porte sur l'atelier de l'historien. Comment travailler sur l'Égypte qui est au cœur, comme on le sait, de plusieurs conflits sur des représentations, sur des héritages, et donc rendre d'une certaine manière justice à la vérité de l'histoire. Qu'est-ce qui fait office, en quelque sorte, tout simplement, d'arbitre impartial? Sur quelle source travaille-t-on?
Sur quelle source travaillez-vous, Jean-Loïc Lequelec? Et comment, justement, sortir, enfin, prendre conscience des mythes et des histoires pour ce qu'ils sont, mais pas plus?
Alors, je crois que le terme très important, là, que vous avez utilisé vous-même et que Elgas utilise aussi, c'est le terme source. Mmh. C'est les sources qui sont importantes. Il faut retourner aux sources. Et quand quelqu'un, par écrit ou oralement, profère ou publie des affirmations très, 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 très étonnantes, ce qu'il faut se demander immédiatement, mais comment il sait ça ou comment elle sait ça? Quelle est la source? D'où ça vient? Il suffit pas d'affirmer quelque chose pour que ce soit vrai. Il faut retourner aux sources. Alors les sources, surtout en ce qui concerne l'Égypte ancienne, les sources, c'est surtout les égyptologues, ceux qui savent lire les hiéroglyphes. Que les autres, ce sont des analphabètes au sens propre du terme. C'est-à-dire ces gens qui ne savent absolument pas lire et qui commentent des textes et des images sans savoir, sans connaître et sans pouvoir lire les légendes qui sont figurées tout autour. Ça conduit, alors ça se comprend très bien quand c'est au XVIe siècle ou quand c'est, disons, au début du 18e, au début du 19e, tout ça, ça se comprend très très bien. On essayait de comprendre les arcanes, les mystères de l'Égypte ancienne, parce qu'il y avait là plein d'images incompréhensibles, donc on pouvait projeter tout ce qu'on voulait, et notamment l'idée de mystère incroyable, supérieur, extraordinaire, que seuls quelques initiés pouvaient comprendre. Et mais quand, dans les années 1820, Champollion craque le code et permet à tout le monde, à tous ceux qui veulent bien apprendre en tout cas, de lire les textes qui entourent les images et qui eux-mêmes sont en grande partie constitués d'images, eh bien, à ce moment-là, les mystères s'effondrent. Il n'y a plus de mystères, il n'y a plus d'arcanes mystérieuses, il n'y a pas besoin d'être initié pour comprendre des mystères ancestraux, un savoir sacré. Le terme hiéroglyphe laisse entendre ça. Les hiéroglyphes, c'est l'écriture sacrée, et ça laisse entendre qu'il y a un savoir supérieur, sacré, spirituel, etc. Mais une fois qu'on a su lire, c'est simplement une écriture, tout ce qui est plus ordinaire.
C'est ça, c'est une écriture, ce qui est plus ordinaire, et qui a, alors vous le disiez, ces mystères, ils ont vraiment suscité, j'ai envie de dire, des délires, parce qu'on a parlé de Gims et de l'électricité, mais il y en a aussi d'autres, il y a notamment un de vos chapitres absolument hallucinant sur les boomerangs. Alors les aborigènes d'Australie se servent de boomerangs, mais qui viendraient aussi d'Égypte, c'est ça?
En fait, c'est une fois de plus, c'est une idée, disons, une prénotion. Quand on dit kangourou, par exemple, si je dis kangourou, ça vous fait penser à quoi?
Évidemment,
vous allez me répondre, à l'Australie ou les aborigènes, bien entendu. Et si je vous dis boomerang, ça va être pareil. Vraiment, je pense que rarissimes doivent être les personnes qui pensent à autre chose. Donc, a priori, qui dit boomerang dit Australie. Or,
voilà.
Quand on a découvert la tombe de Toutankhamon, donc 1922, je crois, et donc là, on trouve dedans toute une série de boomerangs, de vrais boomerangs authentiques et qui posent pas question, que tout le monde, dont tout le monde accepte l'authenticité et l'ancienneté. Et boomerang, aussitôt on a pensé, enfin certains ont pensé, aborigènes et Australie. Et pour eux, ça a été la preuve manifeste que les anciens Égyptiens étaient des grands navigateurs et que avant tout le monde, ils avaient découvert l'Australie et qu'ils en avaient ramené cette arme, le boomerang, qu'ils avaient ensuite continué de fabriquer et d'utiliser. Ça part d'une prénotion, la prénotion que boomerang égale Australie, alors que des boomerangs, il y en a dans le monde entier, à peu près à toutes les époques. Et que, alors, par exemple, on a trouvé des boomerangs en France, on a trouvé des boomerangs gaulois, dans des fouilles parfaitement bien conduites, parfaitement menées, parfaitement bien datées avec le carbone 14, on a des boomerangs gaulois. Le plus ancien boomerang d'Europe a été découvert dans une grotte de Pologne, il a 23 000 ans. Le plus ancien boomerang connu au monde, il est en Afrique australe, en Afrique du Sud, dans un site qui a livré un boomerang malheureusement cassé en deux, vieux, mais on le reconnaît parfaitement. Mmh. Et lui, il a 121 000 ans. C'est très longtemps avant les pharaons, bien entendu. C'est clair. Donc, et c'est même avant le peuplement de l'Australie. Donc, on peut pas synonymiser boomerang et aborigène ou Australie. Disons que le boomerang, c'est une arme très simple. C'est un bâton qu'on lance, hein, voilà, puis qui a été un petit peu perfectionné par expérimentation. C'est une invention qui a été refaite plein de fois et qui a surgi en pas mal d'endroits du monde, notamment, mais pas que, en Australie et notamment en Égypte ancienne, mais pas seulement.
Et notamment en Afrique du Sud, apparemment, c'est vraiment les premiers boomerangs, oui, oui. Hein, c'est ça. Mais au fond, c'est extrêmement intéressant, votre démarche, Jean-Luc Le Quellec, parce qu'on comprend à la fois comment viennent ces espèces d'illusions, de fantasmes et d'histoires, pourquoi on aime beaucoup se raconter des histoires, et comment aujourd'hui essayer de prendre au sérieux ces idées fausses pour comprendre d'où elles viennent. C'est ça, en fait, l'idée.
Oui, alors, bien sûr, je pense qu'il faut, quand on le peut, à chaque fois que c'est possible, essayer de vérifier les informations du type archéologique, hein, qui sont utilisées pour soutenir ce type de discours. Hein, parce que c'est un discours, en réalité, qui est préconçu, qui est très ancien, comme on l'a déjà montré, qui remonte au 19e siècle et même avant. Le discours est là. Et il y a des gens qui utilisent ce qui leur tombe sous la main pour essayer de conforter ce discours par des exemples. Alors, vous avez, là, on vient de parler de l'exemple du boomerang. Mm-hmm. Mais c'est pas avec un exemple qu'on fait une démonstration. Un exemple, c'est juste un exemple d'une théorie qui, par ailleurs, peut être complètement fausse et vraie juste avec cet exemple-là. Bon, et donc, ça, c'est, on n'a jamais rien démontré en accumulant les exemples. Il faut une démonstration. Et les exemples en question, lorsque des gens viennent et vous disent « Ah oui, mais cet exemple-là n'est pas très bon parce qu'en fait, des boomerangs, on connaît d'autres, on connaît beaucoup plus anciens, il y en a un peu partout, l'argumentation ne tient pas, c'est pas parce qu'il y a des boomerangs qu'il n'y aura pas avec l'Australie. » Bon, tout ça s'effondre. Mais qu'importe, le discours reste. Et à ce moment-là, ceux qui considèrent ce discours comme vrai, ce mythe comme vrai, ils vont utiliser d'autres exemples, ils vont chercher d'autres exemples, ils vont écumer la littérature archéologique et égyptologique pour trouver ce qui, à leurs yeux, paraît de nouveau conforter leur discours. Ça explique pourquoi ce discours ancien continue d'être répandu malgré toutes les réfutations.
C'est ça. Et donc à nous de vous lire, hein, cher Jean-Luc Le Quellec, et à nous de remonter aux sources et d'essayer de voir ce qui se cache derrière nos histoires. À méditer en écoutant un très joli morceau extrait de la playlist du mois sur RFI. On reste en Afrique, mais on remonte un peu du côté du Kenya. Enfin, on redescend depuis l'Égypte, on remonte. C'est Nina Ogot en Kuswahili, Ningoji. Attendez-moi sur RFI.
Huzuni na kuwaga, ewe wangu mahabuba, kati penzi likinoga, naondoka, ningoje, nitakukosa sana mpenzi.
Kenyane Nina Ogot, c'est notre choix dans la playlist de RFI. Autour de la question « Pourquoi tant de mythes et d'illusions sur l'Égypte ancienne ?», on continue de s'interroger autour du livre décapant et salutaire de notre invité, l'anthropologue, archéologue et mythologue Jean-Loïc Le Quellec. Nos ancêtres, les pharaons, 5 siècles d'illusions sur l'Égypte ancienne. Et ce n'est pas fini. Loin de là, comme le souligne avec malice un autre empêcheur de penser en rond notre présent et notre avenir, c'est le chercheur et auteur Olivier Amand, directeur de l'Institut Michel Serres. On l'écoute.
On a cette image voilà, des pharaons, en effet, des tombeaux, tout ça. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'aujourd'hui, on a inventé le tombeau moderne. Hein. Quand Mark Zuckerberg fait son bunker à Hawaï, il est en train de s'enterrer, quoi. Il est en train de se prendre pour un pharaon, mais dans sa vision complètement délirante du pharaon, finalement. Hein. C'est un peu ça. La même chose s'applique pour le sarcophage qu'on a mis au-dessus de Tchernobyl. On a appelé ça un sarcophage, ce qui est un geste très fort, hein, parce que sarcophage, donc un sarcophage, c'est quelque chose qui mange la chair. Là, c'est plutôt un technophage, en fait. Et donc, quand on met un sarcophage sur une centrale nucléaire, c'est pour dire qu'on décide de la faire mourir. Donc, finalement, c'est assez étonnant de voir comment on a notre histoire, finalement, on la comprend qu'à moitié, finalement. on embarque des concepts, et moi-même, d'ailleurs, je fais la même chose, mais oui, parfois, ça éclaire la façon dont on voit le monde. Finalement, voilà, Mark Zuckerberg, il est en train de s'enterrer, et le nucléaire, c'est terminé.
Vous voulez réagir, Jean-Loïc Lequelec, c'est pas une boutade, mais ça nous renvoie aussi à notre manière de nous raconter des histoires d'Olivier Hamant.
Oui, ça nous renvoie, je pense, aux réactions possibles, au répertoire des réactions possibles face à notre commune humanité.
C'est ça.
Et face donc à la mort.
Mais bien sûr.
Parce que, évidemment, que ça, c'est quelque chose que nous avons tous en commun. Et face à la mort, que faire? Que faire des disparus? Que prévoir nous-mêmes pour notre propre sort? Eh bien, le répertoire des possibles n'est pas très vaste, finalement. Et c'est pas trop étonnant de retrouver les mêmes façons de faire, y compris chez des gens qui ont très largement les moyens de se construire des monuments à leur propre gloire.
C'est ça. Et au fond, c'est peut-être pas si étonnant que ça. Au fond, les Égyptiens nous montraient comment peut-être défier la mort quand on était puissant, en tout cas. Enfin, il y a peut-être ce rapport-là aussi dans notre fascination pour l'Égypte, en plus du sublime, de l'énorme, de la puissance.
Oui, les momies, ça fait partie de la fascination pour l'Égypte, évidemment. C'est un des moteurs. Il y a les pyramides, il y a le sphinx, mais bon, c'est celui qu'on a en tête, il est quasiment unique. En tout cas, cette image-là est unique. Et ensuite, il y a les momies, comme une espèce de concept générique, les momies en général. Ouais. Et les momies, c'est une façon de faire qui vise à rendre éternel, qui vise l'éternité. Et donc là, il y a évidemment quelque chose de fascinant.
Merci.
Dans la littérature, on ne compte plus dans les films, etc. On ne compte plus les productions artistiques qui évoquent les momies et notamment les momies qui ressuscitent.
Absolument. Oui, ça ferait l'objet d'une autre émission. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Loïc Lequelec, de nous avoir éclairé, d'interroger comme ça nos histoires, nos récits, avec l'esprit libre et ouvert. C'est pas toujours évident, surtout en ces temps troublés. Mais je ne saurais trop vous recommander, chers amis auditrices et auditeurs, la lecture de votre essai. On veut dire courageux, indispensable, dont je rappelle le titre « Nos ancêtres, les pharaons, 5 siècles d'illusions sur l'Égypte ancienne » que vous signez aux éditions du Détour. C'était un joli détour, cher Jean-Loïc Lequelec. Merci beaucoup d'avoir été en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu à La Rochelle. Merci sur place à la technique à Fred Gastine. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Et puis, je peux vous renvoyer, chers amis auditrices et auditeurs, à l'esprit libre et curieux, justement, sur tous les autres ouvrages que vous avez publié, Jean-Loïc Lequelec. Alors, Avant nous le déluge, quel joli titre, La caverne originelle ou encore Des Martiens au Sahara. Et vous revenez quand vous voulez, en vrai ou en duplex, pour nous remettre, comment dire, les mythes et les idées en place. C'est un peu ça, hein. Merci. Merci Jean-Loïc.
Merci à vous.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver en rediffusion ce soir à 23h temps universel. Et bien sûr, vous abonner à notre podcast, disponible notamment sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation et Raphaël Pluxva en coulisses. Autour de la question, pourra-t-on comprendre les lois ultimes de l'univers carrément? Nous en profiterons pour rendre hommage à Higgs, le découvreur du boson de Higgs disparu la semaine dernière, mais aussi pour féliciter dans notre éphéméride du ciel d'Afrique notre nouveau gagnant de lunettes astronomiques, offert par SSVI et RFI en partenariat avec l'Astronomie Afrique. Un grand merci pour votre curiosité, votre interactivité. Merci pour vos messages qui nous inspirent. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles à l'écoute de RFI. C'est bientôt l'heure des informations.